Olvídate de ella. Es peligrosa.
18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 19 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Vous écrivez et vous avez toujours voulu faire découvrir vos textes à un public et vous ne savez pas comment faire. Vous adorez lire et vous êtes en quête de nouvelles pépites à découvrir. Vous tombez bien, on accueille aujourd'hui Céline Galael qui a publié son premier roman Changement de programme en Paris risqué en auto-édition début août. Bonjour Céline.
Bonjour.
Donc ce roman, c'est l'histoire de Margot, une jeune femme de 25 ans qui travaille dans les médias avec ses deux meilleures amies et qui rêve de présenter la météo à la télévision, mais à qui on n'accorde pas le poste parce qu'elle a, je cite, pas le bon profil. Donc ça, c'est l'histoire dans les grandes lignes, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Avant ça, moi, je voulais revenir sur votre parcours, sur votre rapport à l'écriture et sur votre choix de l'auto-édition. Déjà, depuis combien de temps est-ce que vous écrivez ?
Alors, j'écris réellement depuis presque 4 ans maintenant. Avant, j'ai écrit quelques petites histoires pour ma fille, mais des histoires qui ne sortiront jamais du cercle privé. Et donc, du coup, ce roman, j'ai commencé à l'écrire il y a presque 4 ans. Il a subi énormément de réécritures et de corrections très très poussées avant d'arriver à ce stade-là. Et du coup, je continue à écrire parce que c'est devenu un besoin. C'était pas prévu, mais et voilà, j'ai besoin d'écrire.
Et donc vous dites que c'est devenu un besoin, mais au départ, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire avant que ça devienne un besoin, justement ?
Bah, cette histoire-là, en fait, je me suis retrouvée à avoir cette idée qui arrivait comme ça de nulle part après une conversation avec un ami. Et l'histoire s'est mise à m'obséder. C'est-à-dire que vraiment, elle était dans ma tête tout le temps, en arrière-plan, et je n'arrivais pas à ne pas y penser. Du coup, il fallait absolument que je la fasse sortir de ma tête. Donc j'ai écrit. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était que au bout des 6 mois que j'ai mis à sortir le premier jet, et j'allais avoir des idées pour des suites et pour d'autres histoires.
Et du coup, avant, même si ce que vous écrivez, c'était pas forcément pour un public, c'était plutôt pour un cercle fermé, pourquoi déjà avant vous écriviez ?
Parce que ma fille adore les histoires, qu'elle passe son temps à lire, à inventer des choses, et que je trouvais ça assez amusant. J'essayais, à l'époque où j'en écrivais, de trouver des personnages qui changeaient un peu de la princesse qui attendait sagement que le prince charmant vienne la délivrer.
Et du coup, qu'est-ce que vous apporte l'écriture, de manière générale ?
De manière générale, je suis mère célibataire, j'ai donc énormément de responsabilités au quotidien, et l'écriture, c'est le seul domaine où j'ai le droit d'être mauvaise. Si je reste 2 semaines sans écrire, c'est pas grave, personne n'empathie. Si j'écris quelque chose qui est mauvais, c'est pareil, c'est pas grave. Donc c'est l'échappatoire parfait. J'ai le droit de pas assurer là-dedans. Et c'est... On dit qu'il faut prendre le temps de prendre du temps pour soi. Moi, je le passe à écrire.
C'est votre manière de vous exprimer, de cette manière, de pouvoir exprimer les choses que vous ne pouvez pas forcément dire parce que vous êtes censé tout bien faire.
C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est une manière de créer. J'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Pendant longtemps, j'ai essayé à travers la musique. C'était difficilement écoutable. c'était vraiment pas bon. J'arrivais jamais à être satisfaite de ce que je faisais, et même c'était assez décourageant. Sur l'écriture, c'est différent.
Mais qu'est-ce qui est différent, justement, enfin...
La seule limite qu'on a en écriture, c'est l'imagination. Donc j'ai pas besoin de compétences spécifiques pour réussir à faire quelque chose. Ça demande du temps, ça demande du travail. Mais concrètement, à part l'imagination, et puis du papier, un crayon ou un clavier...
Et justement, en parlant de papier, de crayon, de clavier, comment vous écrivez, avec quels moyens? Donc, est-ce que vous écrivez à l'ordinateur, à la main? Est-ce que d'abord vous notez vos idées dans des carnets et après vous les retapez? Comment ça se passe et pourquoi?
Alors, je note tout dans des petits carnets. Je rédige à l'ordinateur. Par contre, je prépare énormément et je prépare sur papier. J'ai des carnets qui sont remplis avec des fiches personnages très poussées, avec le détail de tous les chapitres, toutes les recherches que je fais sur les différents sujets pour avoir tout combiné dans un seul carnet. Et après, ouais, je rédige sur ordinateur.
Vous avez toujours fonctionné comme ça ?
Non. Non, j'ai fait deux essais où je partais comme ça, sans trop préparer. C'est clairement pas ma méthode. Le tout premier, c'était une histoire pour enfants. Ouais, non. C'est, le début, ça va, la fin, ça va à peu près, mais alors le milieu, je tâtonne complètement, je sais pas du tout ce que je raconte. On s'ennuie clairement à la lecture. Même moi, à l'écriture, j'ai réussi à m'ennuyer, c'est dire. Et là, récemment, bah, pendant le confinement, il y avait la maison d'édition Harlequin qui avait fait un appel à texte. Même si la romance, à la base, c'est pas trop le style vers lequel j'irais en écriture, en tout cas en romance, la vraie romance façon téléfilm de Noël, j'ai essayé parce que je trouvais ça rigolo et puis que j'avais pas grand chose d'autre à faire. J'ai abandonné au bout de 5 chapitres parce que, non, en n'ayant pas le temps de préparer, ça ne marche pas.
D'accord, ouais, donc vous avez besoin de préparation. À partir de quand c'est devenu une passion, un besoin vraiment, l'écriture pour vous?
À partir du moment où j'ai vu terminer le premier jet d'un pari risqué. C'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai commencé à écrire parce qu'il fallait que j'arrive à faire sortir cette histoire de ma tête. Quand j'ai posé le point final au premier jet, j'ai réussi à la faire sortir, elle ne m'embêtait plus. Sauf qu'au bout de 3 jours, il me manquait quelque chose. Je venais de passer 6 mois à écrire ce truc, et j'avais besoin de repartir sur autre chose. Donc j'ai essayé de faire autre chose qu'écrire, mais non, ça revenait. Et puis les autres idées que j'avais pu avoir continuaient à se développer gentiment en arrière-plan. Donc, j'ai repris un carnet et puis je m'y suis remise.
Est-ce que vous avez écrit un peu dans tous les genres? Parce que là, vous parlez de votre roman, et du coup, vous écriviez un peu avant, surtout pour vous. Quelle forme prenaient ces textes? Est-ce que c'était un peu comme des romans, ou alors des nouvelles, des poèmes, du théâtre, des essais?
Alors, j'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais à l'école. C'est pareil, ils ne sortiront jamais du cadre privé. Je pense même que personne d'autre que moi n'en aura connaissance, parce que des poèmes écrits par une adolescente, c'est pas... Non, c'est pas publiable, je pense. Pas les miens, en tout cas. Mais non, j'ai écrit des petites histoires pour enfants. J'ai écrit deux nouvelles pour des concours, dont une dont je suis assez fière, mais qui ne sera pas publiée parce qu'elle n'est pas publiable. C'était pour un concours organisé par la maison d'édition Hachette & Rose pour la sortie de la collection Disney Villain et Twisted Tales. Et donc ils avaient fait un appel à texte pour un concours. Et je trouvais le thème rigolo, j'avais envie de voir si je pouvais écrire sous contrainte. Et donc voilà, mais comme du coup je ne suis pas propriétaire des personnages, de l'univers, je ne peux pas la publier. Mais non, il y a eu ça. Puis là, je suis partie sur un autre thème, c'est-à-dire que moi qui pensais ne jamais écrire de romance, c'est ce que je suis en train d'écrire. Mais on est loin des téléfilms de Noël, par contre. Hein. Je crois que j'aime un peu trop torturer mes personnages. Mais ouais, j'ai des idées après pour d'autres romans de société, j'ai des idées pour écrire des romans fantastiques, pour des petits romans premier âge, enfin des petits romans première lecture façon Bibliothèque Rose. Donc non, je vais un peu dans tous les sens en fait.
Et est-ce que vous sauriez nous citer quelques livres qui vous ont marqué, ou alors des auteurs qui pourraient constituer une sorte de modèle pour vous?
Alors étrangement, je ne suis pas une grande lectrice. Quand j'étais petite, je lisais vraiment beaucoup. Et puis, je suis rentrée au collège et on a commencé à m'imposer des lectures. Donc moi, qui ne lisais pas vite, devoir me forcer à lire un truc que je n'avais pas choisi pour qu'en fait, on en reparle après à l'école, ça a bloqué. Du coup, je suis restée après très longtemps sans lire. C'est-à-dire que mis à part Harry Potter, vraiment, je suis restée des années sans ouvrir un bouquin. Là, ça commence à revenir gentiment, donc je peux pas vraiment citer d'auteur qui m'ait réellement marqué. Peut-être André Gide. Je me suis retrouvée un jour à feuilleter un de ses livres au CDI de l'école, et je me souviens avoir vraiment bien aimé sa manière de raconter les choses. Donc c'est prévu que j'achète quelques romans d'André Gide pour creuser un peu plus le truc.
Du coup, est-ce que c'est vraiment le premier projet d'écriture que vous menez jusqu'au bout?
Oui.
Ouais. Et une autre question, enfin une question un peu classique, est-ce que vous avez déjà été victime du syndrome de la page blanche, en tout cas ce qu'on appelle comme ça?
Alors, sur celui-là, pas exactement. Comme je prépare énormément avant, je sais exactement où je vais, je sais qu'est-ce qui se passe dans les chapitres. Par contre, du coup, à la préparation, ça m'arrive d'être totalement bloquée pendant plusieurs jours parce que, soit parce que j'arrive... là, actuellement, je suis en plein dedans, justement, je suis en plein dans un creux narratif et je sais pas du tout comment m'en sortir. Pour un pari risqué, j'avais le problème de comment Margot, qui est rédactrice en chef, peut se retrouver à vouloir présenter la météo. Donc j'ai dû me débrouiller pour créer un contexte où c'était faisable. Mais du coup, non, à la rédaction, après, j'ai pas ce problème parce que je n'ai plus qu'à suivre les notes.
Et est-ce que votre rêve, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était celui de vivre de vos écrits? Ou alors est-ce que ça reste vraiment du domaine du plaisir?
Ah, j'adorerais. Évidemment, j'aimerais bien. Après, je suis pas... Je suis quand même assez lucide. On est très très nombreux à sortir des livres tous les jours. En auto-édition, encore plus qu'en maison d'édition, c'est très compliqué de réussir à percer et donc à vivre de ses ventes. Après, il y a la possibilité toujours d'avoir quelque chose à côté. Pour certains, ça va être un travail classique qui permet de payer les factures. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui vont travailler en fait dans l'édition, mais en proposant des services annexes. Ça va être des corrections, ça va être des illustrations. Donc c'est plutôt vers ça que je partirai.
Et du coup, est-ce que le monde de la littérature, de l'édition, c'est un monde où vous aviez des contacts? Est-ce que vous venez d'une famille qui est là-dedans, ou alors pas du tout? C'était vraiment une découverte pour vous?
C'était une vraie découverte. C'est tellement une découverte que j'ai fait n'importe quoi pour pour annoncer la sortie de mon roman. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais je n'ai fait absolument aucune promotion avant la sortie parce que je ne savais pas. Et il faut bien commencer par quelque chose. Donc j'ai commencé par me tromper. Je me tromperai pas la prochaine fois, c'est pas grave. Et non, mais dans ma famille, c'est pas du tout ça. Bon, ma mère et ma sœur sont de très grandes lectrices, mais non, personne ne travaille dans un milieu artistique même. Mon père a été militaire pendant longtemps, maintenant il est électricien. On est assez loin du domaine littéraire.
Et justement, vous dites que là, c'est une étape, donc celle de faire la promotion du livre, que vous n'avez pas forcément réussi, parce que pas forcément au courant. Mais du coup, quelles sont les étapes pour écrire un livre, en fait, d'après vous?
Les étapes pour écrire un livre, là, je dirais, ça dépend. On parle souvent de deux grandes écoles chez les auteurs, les jardiniers et les architectes. Donc, ceux qui, comme moi, vont énormément planifier avant d'écrire, ce sont les architectes. Donc là, c'est toute la préparation, les recherches. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Et les jardiniers qui, eux, vont avoir une idée et découvrir l'histoire avec leurs personnages et voir ce que ça donne. Donc, voilà, il y a deux écoles. Après, pour la suite, ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie qui est illustratrice, qui m'a aidée un peu qui m'a aidée beaucoup pour la couverture, pour beaucoup de choses en fait sur le livre. C'est elle qui a corrigé une bonne partie du livre, qui m'a fait développer beaucoup beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui peuvent faire une bonne partie de tout ça tout seul, qui ont la possibilité de faire leur couverture eux-mêmes, qui ont autour d'eux des gens qui peuvent faire les corrections, les bêta-lectures. Après, je pense qu'on fait tous un peu la même... Enfin, on fait tous comme on peut. C'est dans les domaines artistiques, en fait, il n'y a pas de plan à suivre.
Et donc, vous dites que vous êtes plutôt architecte. Du coup, à quoi ça correspond en termes de fréquence d'écriture? Est-ce que vous écrivez, je ne sais pas, 2 heures par jour, tous les jours? Ou est-ce que, en fait, vous marchez plus à l'instinct et vous écrivez quand vous en ressentez l'envie, le besoin?
Je marche surtout à l'instinct, mais après, comme j'ai besoin de travailler dessus tous les jours. Si je ne le fais pas, il me manque quelque chose. Donc là, je suis sur la préparation, donc ça dépend d'à quel point les idées avancent d'un jour à l'autre. Je peux y passer une demi-heure comme je peux y passer 3 heures. Après, pour la rédaction, c'est un peu différent. Pour le premier jet d'un pari risqué, j'écrivais comme ça venait. Je pouvais passer 4 heures dans la journée, dans la soirée en fait surtout, à écrire, tout comme je pouvais rester 3 jours sans toucher l'histoire. Là, j'essaye de m'imposer un rythme régulier pour pouvoir avancer, parce que plus on reste longtemps sans y toucher, plus c'est compliqué de se remettre dedans. Donc j'essaye 3 ans et demi pour sortir un livre, c'est long. C'est un peu trop long.
Il y en a qui prennent 10 ans.
Il y en a qui prennent 10 ans. C'est... Oui. Mais je trouve que c'est long.
Ouais.
J'aime bien passer à d'autres histoires aussi quand même.
Et justement, à quel moment on se dit quand on écrit, à quel moment vous êtes dit que vous vouliez publier ce livre, en faire un objet et plus juste une histoire écrite quelque part dans un carnet?
Au départ, la publication non plus n'était pas prévue. J'ai écrit juste pour arrêter d'y penser tout le temps. Je m'étais dit que ouais, je la ferais imprimer en 1 ou 2 exemplaires, histoire d'eux, mais je pensais pas à la publication. C'est ma meilleure amie qui m'a poussée pendant des jours et des semaines en me disant que j'avais quand même réussi à écrire un livre, autant essayer d'en faire quelque chose. Donc je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, histoire d'eux. Et puis, plus je me renseignais en fait sur les maisons d'édition, et moins j'avais envie d'y être. Tous les problèmes en fait de la maison d'édition, le fait de perdre ses droits, de ne pas avoir de vraie mise en avance pour beaucoup de maisons, surtout quand on est, quand on est un auteur de premier roman. En général, la promotion est assez faible. Et j'avais pas envie de perdre mes droits, j'avais pas envie de me retrouver à changer des choses dans mon histoire, juste parce que ça ne correspondait pas à ce que quelqu'un d'autre pouvait penser. Donc au final, j'étais plutôt contente de ne pas avoir de réponse des maisons d'édition. J'ai décidé de retravailler le livre, qui c'était encore que le premier jet, donc bien sûr, il avait besoin d'être beaucoup, beaucoup amélioré. Et finalement, l'auto-édition s'est imposée d'elle-même.
Et du coup, l'auto-édition, on en parlera juste après avoir écouté. Alors, je m'excuse d'avance pour mon accent anglais. Revival de Gregory Porter. I try to run. I grow weary. I try to walk. Grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. I tried to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. On est toujours avec Céline Galael, là pour nous parler de son livre auto-édité qui s'intitule « Changement de programme, un pari risqué ». On en parlait juste avant la pause musicale, mais je vous repose la question quand même pour que ce soit bien clair pour les auditeurs. Pourquoi faire le choix de l'auto-édition ?
Parce que je me reconnaissais beaucoup plus en fait dans la manière de faire en auto-édition que dans l'édition classique. Je n'avais pas envie de perdre mes droits sur mon livre. J'avais pas envie que quelqu'un puisse décider de changer une partie de l'histoire parce que ça ne lui correspondait pas. Je voulais vraiment garder la mainmise sur ce que j'avais fait.
Et du coup, qu'est-ce qui vous attirait le plus dans l'auto-édition par rapport à une édition plus classique ?
Le fait vraiment que ça soit... C'est moi qui décide. C'est moi qui décide comment est l'histoire. C'est moi qui décide si j'ai envie ou pas de changer quelque chose. Je décide de la couverture, je décide du titre, du prix, des plateformes sur lesquelles c'est vendu. Je suis l'unique décisionnaire.
Et vous n'avez pas eu peur que, justement, en faisant ce choix de l'auto-édition, il n'y ait pas ce regard extérieur qui, certes, peut paraître qui peut être un peu désagréable, mais qui peut conduire à faire des améliorations et à faire évoluer le texte?
Bah, les critiques, en fait, il faut réussir à savoir lesquelles sont pertinentes ou pas. J'ai eu, il y a quelque temps, un retour d'une chroniqueuse qui me disait que j'avais oublié quelques coquilles dans le texte. Il n'y avait pas grand-chose, mais bien sûr, je corrige ça et puis je le remets en ligne tout de suite. Donc, bien sûr, ça, je prends. Après, le reste, il y a des conseils qui sont pertinents, qui peuvent aider à s'améliorer, et il y a des points de vue qui sont personnels, et à ce moment-là, chacun interprète les choses comme il veut, mais si moi j'ai voulu faire passer tel message, je fais passer tel message.
Et du coup, vous avez l'impression que dans l'édition classique, les critiques qu'on peut avoir de la part des éditeurs sont en fait plus souvent des points de vue plus que des critiques?
Ça dépend, mais je sais qu'il y a eu des livres qui ont dû être entièrement modifiés, parce que j'ai vu la chose sur un groupe d'auteurs sur Facebook hier, d'une auteure qui expliquait que son livre, qui est une romance homosexuelle, la maison d'édition qui avait accepté de le publier lui a dit « Ok, mais par contre, on change, on met des personnages hétéros. » Non, c'est une romance homosexuelle. Eh bien, c'est une romance homosexuelle. Si l'auteur avait voulu raconter une romance hétéro, elle l'aurait fait. Donc non, moi, j'ai pas envie.
Et est-ce que vous saviez à quoi vous attendre en vous lançant dans l'auto-édition ? Ou est-ce que vraiment c'était un peu un saut dans le vide ?
Sur le papier, je savais. Dans la réalité des choses, je pensais pas qu'il y avait autant de travail de promotion, en fait. Enfin, je le savais, mais tant que j'y avais pas été confrontée, je me rendais pas compte à quel point c'était une énorme partie de la chose. En général, quand on écrit, c'est vrai que on est auteur, on écrit, on invente. Les maisons d'édition se chargent de la promotion, des mises en page et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, mais en auto-édition, c'est à nous de le faire. Ou alors il faut payer pour que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Et voilà, ça prend beaucoup de place en fait dans le package auteur auto-édité. Mais bon, c'est comme le reste, ça s'apprend. Après, il y en a qui ne veulent pas en faire, mais heureusement, maintenant, l'auto-édition se professionnalise. Il y a de plus en plus de personnes qui proposent en fait de gérer tout ça à notre place. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas faire appel à un prestataire, mais il y a cette possibilité maintenant.
Et justement, là, vous dites que vous avez choisi de ne pas faire appel à une plateforme ou à une personne qui pourrait vous aider, enfin, qui aurait pu vous aider pour tout ce qui était promotion, peut-être remise en forme, tout ce qui est correction orthographique, etc. Est-ce que c'est un choix que vous avez pu regretter ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça sera à cause de moi. C'est que là, actuellement, le livre ne se vend pas très bien. Mais je n'ai pas fait de promotion avant la sortie, ou en tout cas très très peu et pas très très bien. Donc c'est normal qu'ils se vendent pas. C'est un livre perdu dans des milliards d'autres. Évidemment que personne ne le trouve. Si j'en parle pas, personne n'en parle. Et si personne n'en parle, forcément, il n'existe pas. Donc non, si ça marche pas, ça marche pas. Tant pis, moi je continuerai à écrire parce que j'aime ça. Si un jour ça prend, et bah ça prendra. Youpi, ça sera chouette. En attendant, je continue à écrire parce que moi, ça me fait plaisir.
Et donc, sur tout ce qui était étape à faire dans ce processus d'auto-édition, pardon, comment vous avez mis le livre en forme? C'est-à-dire, comment vous avez vraiment délimité une structure? Quel chapitre s'arrête où? Est-ce qu'on fait une introduction, une conclusion, tout ça?
Je pense que ça se fait assez à l'instinct, en fait. J'essaye d'avoir des chapitres qui fassent à peu près la même longueur, enfin que les chapitres soient assez équilibrés. Après, je sais que tous les auteurs ne font pas ça. J'ai une amie qui, elle, va faire se suivre des chapitres très longs et des chapitres très courts. Ça dépend, en fait, de comment avance l'histoire, en fait. Ça sert à rien d'avoir un chapitre très long pour quelque chose qui pourrait être raconté en 3 pages. Ça sert à rien de tartiner juste pour avoir le nombre de pages qu'il faut.
Et donc, tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas passé par un prestataire. Mais du coup, comment vous avez fait pour imprimer le livre? Et en combien d'exemplaires vous l'avez imprimé? Est-ce que vous l'avez diffusé auprès des librairies, etc.?
Or, du coup, là, il est sur Amazon. Donc, c'est de l'impression à la demande. Donc, il n'y a pas de stock chez Amazon. Moi, j'ai un petit stock chez moi que j'ai fait imprimer par Amazon. Là, je suis en train de réfléchir à passer peut-être par un imprimeur pour avoir un stock un peu moins cher. Puisque sur Amazon, effectivement, le livre, on le paye, nous, moins cher que les clients. On le paye au tarif auteur. Mais qu'on achète 3 livres ou 300, à l'unité, ça reste le même prix. Alors que chez un imprimeur, on peut... Enfin, plus on achète et moins on paye à l'unité. Donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui serait le plus avantageux par rapport au stock dont j'ai besoin. Après, les libraires, j'y travaille, je suis en pourparlers avec certains magasins. J'ai le tabac presse Le Quéror au Relais Carillon qui a déjà accepté de me prendre un stock pour essayer d'en vendre. Donc, on verra ce que ça va donner. Là, pour l'instant, il n'est que sur Amazon ou chez moi.
Et est-ce que pour l'instant vous avez des retours de l'ouvrage ou même au moment où vous écriviez, parce que tout à l'heure vous parliez de bêta auteur, et du coup qui sont ces personnes qui vous ont relu?
Alors d'abord il y a eu ma meilleure amie qui a lu le premier jet dès que je l'ai vu fini. Je l'ai terminé à 1h du matin, je lui ai envoyé sur internet. 2 heures plus tard elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle avait fini. Voilà. Après, oui, j'ai eu des retours pendant l'écriture avec des amis, avec ma bêta lectrice. Depuis qu'il est publié, j'ai eu un retour de chroniqueur. Là, j'en attends d'autres. J'ai eu des retours de lecture aussi d'autres personnes. Pour l'instant, tous les retours que j'ai eu dessus sont positifs. C'est pour ça que je pense que vraiment, s'il ne se vend pas, c'est que c'est moi qui fais des bêtises. Normalement, j'aurais dû quand même réussir à faire 3 ou 4 ventes le premier mois. J'en ai fait une. Bon. Mais non, j'ai eu des retours, des retours positifs. Donc ça fait plaisir. Et j'espère que ça continuera.
Et du coup, les retours de bêta lecteurs que vous avez pu avoir pendant toute la construction du récit, entre le premier jet et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a beaucoup aidé?
Ouais, énormément. Après, je n'ai pas d'incohérence dans cette histoire, puisque comme j'ai beaucoup travaillé en amont, et j'aime pas les incohérences. Donc vraiment, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais avoir un regard extérieur, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses qui me semblaient logiques à moi, même à la relecture, et en fait, pas du tout. Donc ma bêta lectrice m'a fait développer énormément de choses, parce que c'était pas suffisamment clair, pas suffisamment impactant. Après, j'apprends. Peut-être que pour ce livre-là, j'aurai moins besoin de développer à la réécriture, puisque peut-être que je le ferai un peu plus déjà à la première écriture.
Du coup, une question à laquelle je ne sais pas trop répondre, mais comment vous avez choisi le titre? Comment, après des mois et des mois d'écriture, on choisit un titre?
Alors, ça dépend. Il y en a qui vont trouver très facilement. Moi, ça a été la galère. Vraiment. L'histoire a changé de titre 3 fois. Il a changé de genre aussi, parce qu'au départ, je l'avais pensé pour un public plutôt adolescent, ce qui desservait clairement l'histoire. Et vraiment, en fait, il a subi trois grosses réécritures. Et à chaque réécriture, il a changé de titre. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Et il se trouve qu'en plus, là maintenant, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc en plus de trouver le titre du roman, j'ai dû trouver le titre de la trilogie. Je me suis arraché les cheveux. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avant de réussir à trouver le titre définitif.
Et est-ce que, voilà, tout à l'heure, en introduction, je racontais un peu l'histoire. Est-ce que vous pourriez la raconter avec vos mots à vous, sans forcément
spoiler? En essayant de ne pas spoiler. Voilà. Sans spoiler, c'est pas facile. C'est donc l'histoire de Margot, qui est rédactrice en chef avec ses deux meilleures amies pour une chaîne de télé 2.0, on va dire, qui est donc laissée... c'est compliqué, en fait. Hein. Margot et ses amis viennent d'Internet. C'était des vidéastes du web qui se sont retrouvés à être rédacteurs en chef pour rajeunir la télévision, pour récupérer le jeune public qui a un peu abandonné tout ça. Donc, c'est une chaîne de télé où les employés n'ont pas forcément un seul rôle bien défini. Ils peuvent faire autre chose. Margot, qui est donc rédactrice en chef, se retrouve à postuler pour présenter le bulletin météo, puisque la météo, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément depuis qu'elle est toute petite. Le problème, c'est que son chef refuse. Sans vraiment dire pourquoi, le seul argument, c'est qu'elle n'a pas le bon profil. Et ça entraîne beaucoup, beaucoup de problèmes, puisque Margot n'est pas du genre à lâcher très facilement l'affaire. Et ouais, ça l'amène vraiment très très loin.
Du coup, là, vous parlez de Margot, mais il y a aussi d'autres personnages. Comment vous avez construit ces personnages? Est-ce que vous êtes appuyé sur des personnes que vous connaissiez ou pas du tout?
Pas du tout. Vraiment pas du tout. Non, ils se sont vraiment développés avec l'histoire dès le départ. Donc j'avais vraiment ce trio-là tout de suite. Après, plus j'ai travaillé sur eux, plus je trouvais que le trio fonctionnait vraiment très bien, parce qu'ils ont tous les trois des caractères très différents, mais ils se complètent vraiment très bien. Et ça amène un équilibre que je trouve assez intéressant. Et du coup, dès qu'il y en a un qui va moins bien, les autres vont contrebalancer. Et c'est vraiment les potes qu'on voudrait tous avoir.
Et tout à l'heure... Vous disiez que vous prépariez beaucoup et que du coup vous aviez des fiches personnages, mais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces fiches? Est-ce que c'était des descriptions de leur mentalité, de leur caractère ou alors tout simplement de leur rôle au sein de la rédaction
Ah, de tout. Je connais toute leur vie. Je sais ce qu'ils ont eu comme cadeau d'anniversaire pour leurs 3 ans. Oui, ça va loin, mais quand on travaille aussi longtemps sur la même histoire, en fait, on finit par devenir un peu fou. Et les personnages, ils finissent par presque exister vraiment dans la tête. On devient schizo, hein, faut le dire. On devient tous un peu fous, je crois. Mais non, c'est... Au départ, c'est un... Sur les fiches personnages, il y a le descriptif physique, il y a leur nom, leur âge, comment ils sont, comment ils s'habillent, comment ils se comportent, les petites manies qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il y a leur caractère. Est-ce qu'ils sont plutôt timides, plutôt extravertis? Est-ce qu'ils sont bruyants? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qu'ils font à côté? Quand ils ont une heure à tuer, à quoi ils pensent? Voilà, je développe vraiment beaucoup le personnage, parce que une fois que j'ai le personnage et que je sais comment il est, raconter l'histoire, c'est beaucoup plus facile.
D'accord, donc vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur ces fiches, et au final, vous n'en utilisez qu'une seule partie, en fait.
C'est un peu ça. Après, dans cette histoire-là, vu qu'il y a donc 2 tomes après, je vais réutiliser beaucoup d'informations sur autre chose. Notamment parce que dans ce tome-là, on se rend compte que... Enfin, on peut penser que les personnages n'ont pas de famille. Ils sont tout seuls. Et vu ce qui arrive à Margot, on peut se demander un peu où sont ses parents. Et tout ça, justement, s'est développé dans la suite. Notamment le pourquoi de Maxime est comme ça, pourquoi Tom réagit comme ça sur beaucoup de choses. Donc non, je creuse tout ça après.
Et du coup, tout au long du roman, il n'y a pas tellement de description physique de Margot. J'imagine que c'est un rapport avec ce qui va lui arriver. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce choix de ne pas avoir beaucoup de description physique de Margot ?
Bah, déjà, Margot, on la voit sur la couverture, donc on sait que voilà, Margot, c'est pas la Miss Météo standard. Après, non, c'est voulu dans les pages de pas commencer directement par décrire physiquement Margot. Je préférais qu'en fait les gens la découvrent par rapport à son caractère, à comment elle était, comment elle réagissait à plein de choses, et au fur et à mesure avoir des détails sur comment elle est. Parce qu'on finit par avoir une description assez précise de Margot, mais c'est vrai qu'il faut attendre, c'est beaucoup plus dilué que pour les autres personnages.
Et tout à l'heure, vous parliez de recherche, mais comment vous avez fait des recherches, par exemple, sur le monde du journalisme, de la télé, etc. Est-ce que c'est un milieu que vous connaissiez, ou est-ce que vraiment vous avez
pas du tout.
Beaucoup de recherches,
ouais. Énormément. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur Google. Non, j'ai fait des recherches sur... sur les métiers à la télé, sur les organigrammes d'entreprise pour voir qui était au-dessus de qui, voir comment ça se passait un petit peu. Après, là, l'avantage que j'ai dans celui-là, c'est que ça se passe avant le lancement de la chaîne, donc ça va encore à peu près. Ça devient un peu plus compliqué après de raconter beaucoup de choses dans les tomes 2 et 3 là-dessus. Donc je vais devoir refaire pas mal de recherches pour appuyer tout ça. Après, ce qui a été le plus long, je pense, et le plus compliqué, c'est la partie médicale. Parce que je n'y connais absolument rien. Donc, histoire de spoiler juste un tout petit peu, mais pas plus que ce que je fais sur les réseaux sociaux, Margot finit par se rendre malade en essayant de correspondre au bon profil demandé par son patron. Et forcément, quand on demande à une jeune femme obèse de correspondre au bon profil en 2 mois, bon, c'est jamais très très bon. Surtout quand la demoiselle en question est du genre à foncer tête baissée sans réfléchir aux conséquences. Et donc, toute cette histoire de troubles du comportement alimentaire, de dépression, il y a certaines choses que je savais, mais j'ai dû faire beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver des témoignages, pour essayer de trouver des reportages qui se passait dans les cliniques concernées. Essayez vraiment d'être crédible dans ce que je racontais.
Et donc, du coup, vous avez parlé à des personnes concernées par les TCA ?
J'ai pu parler à quelques personnes concernées. J'ai regardé beaucoup de reportages. J'ai lu énormément de témoignages. Donc, j'ai essayé après de... Après, ça reste de la littérature. Donc, bien sûr, c'est tout est imaginé. Mais... au moins ça soit crédible.
Et juste avant de continuer sur le thème de cet ouvrage, on va écouter Riding Solo de Inds.
Inside.
Vous êtes sur Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites, et on est encore en compagnie de Céline Galael pour parler de son premier roman, intitulé Changement de programme, un pari risqué. Bon, Céline, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi ce thème de la grossophobie dans votre roman ?
Parce qu'on parle de ce qu'on connaît, et que je suis très très loin d'avoir aussi le profil de la Miss Météo. J'ai la taille mannequin, je suis loin d'avoir le physique. Mais voilà, c'est un thème que je connais, que je subis depuis très très longtemps. Et c'est facile de parler de ça quand on est concerné.
Et Margot, c'est le personnage central. Pour autant, au fil des pages, on va aussi avoir la vie d'autres personnages, donc de Maxime, de Lucie, enfin voilà, tout le personnage qui accompagne Margot. Pour vous, c'était une manière de montrer l'incompréhension de la société qui voit les personnes plongées dans tout ce qui est TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, mais sans forcément savoir quoi faire.
Il y a un peu de ça, oui. Je voulais montrer, en fait, au tout départ, à quel point on pouvait aller loin pour essayer de correspondre à ce que la société attend de nous. Et après, dans le déroulé de l'histoire, je me retrouve en fait à montrer à quel point ça peut être dur aussi pour les gens qui sont autour, qui voient qu'il se passe quelque chose, mais qui ne peuvent rien faire pour empêcher que ça arrive. Et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre justement à la fois Margot, mais aussi Maxime et Tom. Parce qu'en fait, ils sont autant impactés que Margot par ce qui arrive, mais d'une autre manière.
Ça a été compliqué d'écrire sur un sujet que vous connaissiez, que vous avez vécu, que vous avez subi, si on peut dire.
En soi, non, pas spécialement. Après, certains passages où Margot va très très mal ont été assez compliqués parce que je suis très sensible et que forcément ce genre de passage touche énormément. Donc même si je l'ai pas personnellement vécu, bah, à travers les personnages, on le vit aussi. Donc, c'est éprouvant. Mais non, c'est pas spécialement difficile, en fait. C'est compliqué de savoir quelle partie de nous et de notre histoire on va mettre dans les personnages. Après, le raconter en soi, en ce qui me concerne, en tout cas, ça coule tout seul.
Et est-ce qu'en commençant à écrire là-dessus, donc sur la grossophobie, vous avez eu peur à un moment de faire quelque chose de cliché ou quelque chose qu'on retrouverait vraiment partout dans les films ?
Un peu. Un petit peu, oui. Après, l'avantage, c'est que on trouve assez peu de personnages principaux à être obèses, notamment des femmes. À la limite, si on en trouve, elles sont à côté. C'est la bonne copine, c'est le sidekick rigolo qui est là pour rajouter un petit peu d'humour dans l'histoire. Bon, moi j'ai une héroïne qui est obèse, qui est malade. Bon, il n'y en a pas partout.
Et est-ce que, enfin, tout à l'heure vous parliez des recherches que vous avez pu faire, etc., notamment sur tout ce qui était TCA, sur l'hôpital, etc. Comment vous avez trouvé des informations là-dessus ? J'imagine qu'il faut faire quand même des recherches un peu approfondies pour pour trouver des informations sur les groupes de parole, sur comment l'hôpital fonctionne pour ces cas-là, quoi.
Alors, étrangement, pour ça, Doctissimo est une très bonne source d'informations. Vraiment, les forums Doctissimo, c'est génial. Je suis tombée dessus totalement par hasard un jour sur la 7e page de recherche Google. J'y ai passé 2 semaines. Parce qu'en fait, il y a des forums, justement. La première fois, je suis tombée sur un forum avec une jeune fille qui expliquait que donc elle était malade, qu'elle venait d'aller aux urgences parce que ça allait pas du tout et qu'on voulait la garder pour l'envoyer après en clinique spécialisée. Et elle raconte en fait son truc sur des mois et des mois. Et du coup, c'est un témoignage vraiment point par point qui était super intéressant. Et il y en a d'autres. Donc ça, on trouve des témoignages de gens qui en parlent après. Mais là, c'est vraiment pendant le truc, étape par étape. Et c'est une mine d'or, en fait, pour un livre comme ça.
Et justement, est-ce que ce fameux témoignage, donc, qui a quand même duré des mois, vous en êtes beaucoup inspiré pour décrire à la fois soit le quotidien de Margot, une fois qu'elle est vraiment malade, soit les personnes également malades qu'elle peut rencontrer ?
C'est ça. Margot a la chance, quand elle arrive en clinique de soins, d'être malade, mais d'être toujours très très en surpoids. Donc quand on pense à quelqu'un qui est anorexique, on va penser à quelqu'un qui est vraiment très très maigre. On pense jamais à quelqu'un qui est obèse et anorexique. Pour la majorité des gens, c'est totalement antinomique. Sauf que si, ça existe. Et le fait que Margot soit comme ça lui permet de sortir très très vite, ce qui à la fois est très bien pour elle et qui est nécessaire pour l'histoire. J'avais besoin qu'elle puisse sortir très vite. Et il se trouve que l'histoire, comme je l'avais imaginé dès le départ, lui permettait de sortir très vite. Mais forcément, autour d'elle, elle a beaucoup de gens qui, eux, sont très maigres, qui sont dans des états de santé qui sont très très préoccupants. Et oui, ça m'aide pour Margot par rapport à comment elle se sent là-dedans, à quel point elle se sent perdue, à quel point elle a peur de tout ce qui se passe. Mais ça permet aussi de décrire les gens qui sont autour d'elle, qui eux sont beaucoup plus proches en fait de la jeune fille de ce témoignage que j'avais trouvé.
Je vais vous lire un extrait d'un rapport qui s'appelle « Anorexie mentale prise en charge » publié en juin 2010 par la Haute Autorité de Santé, qui dit, je cite, « L'anorexie mentale débute avec une période de restriction alimentaire, le plus souvent entre 12 et 19 ans, avec un sexe ratio de 9 filles pour un garçon. » Par rapport à ça, pour vous, c'était important de parler d'anorexie et de boulimie sur un personnage qui a 25 ans, en l'occurrence. Est-ce que c'est un moyen de montrer que même si souvent c'est, comme le dit le rapport, entre 12 et 19 ans, pardon, c'est aussi quelque chose qui peut arriver plus tard, à tout âge?
J'avoue que je n'avais pas forcément pensé au moment de l'écriture, mais effectivement, les troubles du comportement alimentaire, bien souvent, ils arrivent à l'adolescence, mais c'est comme la dépression. Une fois qu'on est tombé malade, une fois... c'est très très compliqué d'en sortir. On peut guérir, mais au final on se bat tous les jours contre ça. Donc montrer qu'on peut tomber dedans beaucoup plus tard, c'était pas forcément une volonté à la base, mais au final c'est peut-être pas mal.
Et c'est quoi le message de votre livre pour vous vis-à-vis de la grossophobie? Le message que vous voulez faire porter?
Le message de ce livre-là et de la trilogie en soi, c'est les différences existent. Et là, Margot en arrive à se retrouver dans un état lamentable pour correspondre à ce que la société attend d'elle, alors qu'elle allait très bien avant. Elle était très bien dans sa peau, elle avait ses potes, elle avait son travail. Tout allait très bien dans sa vie avant que quelqu'un lui dise que elle n'était pas comme il fallait. Et là, du coup, c'est une jeune femme obèse, mais c'est valable pour toutes les différences visuelles. Et ça sera abordé dans la suite. Pas toutes, bien sûr, parce que ça fait un peu beaucoup sinon, mais quelques-unes.
Sur toute la durée du roman, si je ne me trompe pas, on ne connaît pas le poids de Margot. Est-ce que pour vous, c'était une manière de ne pas stigmatiser, de faire une sorte de contre-pied en se détachant des chiffres et en ne donnant jamais de chiffres précis?
Oui, je parle du poids qu'elle veut perdre pour accéder à ce fameux bon profil. Donc, à la limite, si on a vraiment envie de savoir, il suffit de faire un petit peu de maths pour avoir une idée approximative. Mais non, je voulais pas donner un poids parce que l'obésité, c'est pas juste un chiffre, en fait. Il y a des femmes qui ont ma morphologie en étant plus petites, elles sont considérées comme normales. Des femmes qui font mon poids, qui sont plus petites, qui paraissent beaucoup plus grosses. Non, c'est... L'obésité, c'est pas juste un poids. C'est beaucoup de choses. Et... Tout comme l'anorexie, en fait. On ne sait pas non plus à quel poids s'arrête Margot quand elle arrive à l'hôpital. Et le poids va continuer à être un sujet beaucoup abordé dans la suite. Je ne compte pas non plus dire combien elle pèse.
Au début de l'histoire, il y a un entretien entre Alexandre, qui est donc le chef, qui est celui qui fait comprendre à Margot que ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas être... qu'elle ne peut pas présenter la météo. Donc il y a un entretien entre lui et Lucie, qui est une collègue de Margot, et Alexandre fait comprendre à Lucie pourquoi Margot n'est pas prise. Donc il parle de mauvais profil, et à un moment il dit aussi, je cite, « Repeindre un meuble ne suffit pas à changer son volume. » donc une phrase qui est très dure, je trouve. Mais est-ce qu'il y avait une volonté de votre part de dénoncer le tabou autour du mot grosse ?
Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, t'es un peu enrobée, t'es bien en chair. » Non, je suis grosse. On parle d'une grosse part de gâteau, on parle de... Moi, je suis grosse, c'est un adjectif. Je suis une femme, je suis brune, je suis grosse, c'est comme ça. Margot, elle n'a pas de souci avec ça à la base non plus. C'est les autres qui ont un problème avec. Et pour moi, c'est ça le gros souci. C'est les autres qui ont un problème avec certaines choses et qui du coup refusent de le montrer. Sauf qu'en ne le montrant pas, ça crée ce problème. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue.
Du coup, est-ce que pour vous, il faudrait que les gens assument ce terme et que ce terme ne soit plus tabou et qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est gros ou...
Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça comme une insulte. Pour qui, justement, qui n'arrivent pas eux-mêmes à se définir comme étant gros. Moi, j'ai appris à l'accepter. Et pendant très longtemps, c'était une insulte qu'on me balançait en permanence. Donc, non, je pense pas qu'il faille que tout le monde l'utilise comme un simple adjectif. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de rééducation à faire autour de ça dans la société.
Pour vous, c'était nécessaire de faire un livre là-dessus. Est-ce que vous aviez le sentiment que c'est un sujet qui n'était pas assez évoqué dans la littérature ?
Oui, oui, oui. Surtout que je disais qu'à la base, cette idée venait d'une conversation avec un ami. La conversation, c'était « Tu trouves pas qu'il y a vraiment pas beaucoup de gros dans les pubs à la télé ?» Voilà, ça venait de là. Et les premières recherches que j'ai faites, c'était « Quel était le pourcentage de femmes obèses qu'on voyait à la télé française ?» J'ai passé 2 jours à faire la liste de toutes les présentatrices, les chroniqueuses, les journalistes, toutes les femmes qu'on voyait à l'écran à la télé, donc télé française uniquement. J'ai trouvé à l'époque 58 noms. Donc déjà, c'était pas la moitié des présentateurs, hein, bien sûr. Sur ces 58 femmes, il y en avait 3 qui étaient considérées, enfin, qu'on pouvait considérer comme étant en surpoids. Et parmi ces 3-là, il y en avait 2 qui avaient fait un régime drastique entre-temps. Voilà. Bon, c'est qu'il y a un problème.
Mais est-ce que malgré tout, vous avez l'impression que ça évolue quand même, je pense en l'occurrence au reportage qui a été fait par Arte, qui a été diffusé en juin dernier, il me semble, qui s'appelle « On achète bien les gros » et qui est adapté du roman autobiographique, il me semble, « On n'en est pas grosse » de Gabriel Dédier, qui a donc fait pas mal de bruit. Est-ce que vous avez l'impression que grâce à des ouvrages comme ça, et où, bah, voilà, grâce à votre livre, c'est des sujets sur lesquels on commence enfin à parler ?
Je pense. De toute façon, actuellement, il y a tellement de choses qui commencent à arriver sur le tapis par rapport aux différences, aux représentations et tout ça. Ça fait partie du lot. Donc, c'est drôle parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, il y a eu cette histoire de jeune fille trisomique qui rêvait de présenter la météo et qui est venue présenter un bulletin avec, je ne sais plus, Yveline Delia, je crois. Une des deux. Catherine Delia ou... Du coup, j'ai fait un mix des noms, c'est parfait.
C'est pas grave.
Mais voilà, on commence à en voir. Concrètement, quand on regarde la télé, où est-ce qu'on voit des gens différents ? Donc des gens physiquement différents, donc des gros, des handicapés. Où est-ce qu'on les voit ? On les voit dans des reportages en tant qu'invités, et c'est tout. Les gros, on les voit dans les pubs avant-après pour les régimes. Et dans la pub pour les fenêtres, avec le sumo. Voilà.
Et enfin, dernière question, du coup, c'est une trilogie. Est-ce que vous pouvez nous dire quand sera disponible le 10e tome ?
Alors là, je travaille sur autre chose. J'espère réussir à finir ce livre-là pour février. Donc, le tome 2 de Changement de programme sortira l'année prochaine, en 2021, sûr. Alors, à quel moment ? Je ne sais pas encore, mais il sortira en 2021. Et le tome 3 sortira en 2022.
Très bien. Céline, merci beaucoup d'être venue.
Mais de rien, merci de m'avoir invitée.
C'était donc Céline Galaël, donc là pour nous parler de son premier roman, Changement de programme, un pari risqué, auto-édité sur le thème de la grossophobie, que vous pouvez retrouver donc sur Amazon et peut-être bientôt chez vos libraires, si vous le commandez. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain. en partenariat avec le CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Aujourd'hui, nous sommes à Poulaouen, dans une ancienne quincaillerie. Séverine Valomet a transformé l'ancien bâtiment en un lieu de travail qui lui ressemble. Depuis 2004, elle et Sophie O'Haraud sont co-directrices de la quincaille.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Aujourd'hui, nous sommes à la quincaille, lieu d'accueil de résidences artistiques et compagnies de théâtre. Elle est située à Poulaouen, dans le Finistère. Et je suis avec Séverine Valomet.
Bonjour.
Et Sophie O'Haraud.
Bonjour.
Elles sont toutes deux co-directrices de la quincaille et artistes de la compagnie.
Alors l'histoire de la quincaille avant nous, quoi. C'était donc un petit commerce de bourgade Poulaouen, mais qui était quand même une belle bourgade, vu que c'était aussi grand que Carré à une époque. Voilà, ça faisait partie des multiples commerces de Poulaouen. Il y avait des mini quincailleries bars dans tout le bourg et alentour. Du coup, la quincaillerie, c'était... Ça a été petit à petit de plus en plus connu, dans le sens où elle a commencé de presque rien et puis ça s'est étendu et elle a fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'apprentis sabotiers qui ont dormi dans le fond du garage sur une paillasse là. Et petit à petit, en fait, ils ont aussi fait des vêtements, des bottes. À un moment donné, les bottes ont surplombé les sabots. Et voilà, d'un peu de tout, de la peinture, des outils bien sûr, hein, de l'outillage, le papier peint, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Des bols avec le prénom, des bols avec des fleurs, des bols avec des carreaux.
Des fleurs en plastique.